Le 5 novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne provoque la mort de 8 personnes. 6 ans plus tard, les propriétaires, bailleurs, syndics, experts, élus, sont jugés pour leur inaction malgré les signalements répétés sur le délabrement des bâtiments. Depuis le début du procès, le 7 novembre, des greffiers populaires sont présents et prennent des notes. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la Plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. L'enregistrement qui suit a été pris lors d'une criée publique.
Épisode numéro 6, avant toute chose, on voudrait vous faire remarquer qu'ici, sur le mur du transformateur, il y a des messages de soutien aux familles des victimes qui ont été collés. Et la maman de Liliana, la maman de Julien Liliana, est venue un soir et a écrit merci sur tous les messages. Tant qu'ils sont encore là, vous pouvez les lire. C'est parti, épisode numéro 6, faites entrer les peines de prison ferme. Le procès a repris avec les réquisitions du procureur et les réquisitions du parquet.
C'est quoi le parquet?
Le parquet désigne les magistrats chargés de requérir l'application de la loi, mais ils ne font pas le travail des juges. Ils émettent des recommandations que le tribunal suivra ou pas.
Depuis le début du procès, Michel Sastre, substitut du procureur, est présent au tribunal. Il intervient parfois pour faire entendre son avis ou pour poser des questions aux accusés et aux témoins. Mais aujourd'hui, celui qui parle en premier, c'est le procureur général de Marseille, Nicolas Besson, le chef du parquet.
Dans un réquisitoire vibrant, il a rappelé les points importants du dossier et également l'utilité d'un tel procès.
Il a affirmé l'engagement de la justice dans la bataille contre l'habitat indigne.
Ce n'est pas une simple affaire judiciaire, mais une blessure dans le cœur de Marseille. Le 5 novembre, il y a 6 ans, le cœur de 8 personnes s'arrêtait de battre. Il est important que le ministère public requiert aussi pour ces personnes, pour ces victimes, parce qu'il est de la quintessence du rôle du ministère public de protéger les plus faibles.
Ces effondrements ne doivent rien à la fatalité, au hasard, et encore moins à la pluie. Et cette catastrophe est venue apporter un terrible éclairage sur l'habitat indigne dans la cité phocéenne. D'un chaos silencieux à une réalité criante.
Si chacun avait rempli ses obligations, peut-être que les immeubles se seraient quand même effondrés. Mais il n'y aurait pas eu de mort, car les alertes auraient été entendues.
Et les habitants évacués.
Le magistrat annonce que les réquisitions doivent aussi au combat des proches des victimes, qui ont fait comparaître les propriétaires qui n'avaient pas fait l'objet d'une première mise en examen.
Le procureur décèle la même responsabilité collective que pour le meurtre qu'a imaginé Agatha Christie dans le crime de l'Orient Express. Hercule Poirot va chercher le coupable et en réalité, chacun est responsable d'un coup de couteau mortel.
Alors nous vous rappelons qu'il y a deux chefs d'accusation principaux. Du coup, le parquet différencie les propriétaires qu'il met en première ligne, poursuivis notamment pour le délit intentionnel de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Et les figures d'autorité en deuxième ligne, les élus, les responsables, poursuivis notamment pour homicide involontaire. Jingle,
jingle.
Le procès, 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 le procès.
Le procureur Michel Sastre prend la suite du réquisitoire après Nicolas Besson. Ils avaient tous connaissance des problèmes structurels de leur immeuble.
Ils avaient pour objectif de jouer la montre, dépenser le plus tard possible et le moins possible. Ils avaient cette volonté de tout faire pour ne rien.
Cette volonté de tout faire pour ne rien faire. Voici maintenant les peines proposées par le procureur de la République. Attention, ce n'est pas le jugement définitif du procès. Pour cela, il faudra attendre, on l'a appris hier, le 7 juillet 2025. Monsieur Richard Carta.
Coupable d'avoir négligé sa visite 2 semaines avant les effondrements. 3 ans de prison, dont temps avec sursis, et 45 000 euros d'amende.
Monsieur Julien Ruas.
Coupable d'être auteur indirect du drame par ses manquements à ses obligations d'élu. 3 ans de prison avec 45 000 euros d'amende et interdiction définitive d'activité professionnelle en lien avec la sécurité des personnes.
Marseille Habitat.
Coupable d'avoir abîmé et laissé à l'abandon le 63 rue d'Aubagne. 200 000 euros d'amende et affichage de cette décision dans 2 quotidiens nationaux.
Monsieur Christian Gilles.
Coupable en qualité de directeur de Marseille Habitat à l'époque. 30 mois de prison, 30 000 euros d'amende, interdiction d'activité professionnelle en lien avec l'habitat pendant 5 ans.
Monsieur Christian Coulonge.
Actuel directeur de Marseille Habitat, relaxé car agissant d'après le procureur sous l'autorité de Christian Gilles.
Le syndicat Lyotard.
Coupable d'avoir caché les alertes des experts, 100 000 euros d'amende et interdiction d'activité de syndic et affichage de la décision.
Monsieur Jean-François Valentin.
Gestionnaire du syndic. Coupable des mêmes fautes. 30 mois de prison, 300 000 euros. Interdiction définitive d'activité professionnelle en lien avec l'habitat. Puis viennent les propriétaires coupables, notamment d'avoir refusé les travaux d'entretien essentiels à la survie de l'immeuble. Xavier Cachard,
propriétaire et avocat du syndic Lyotard, 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, 150 000 euros d'amende, interdiction d'activité définitive.
Madame Bonetto,
4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 50 000 euros d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement.
Alexis Bonetto,
2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 25 000 euros d'amende, interdiction de gérer un bien d'hébergement pendant 5 ans.
Sylvie Collier,
2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 20 000 euros d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement.
Gilbert Hardini,
4 ans de prison, dont 1 avec sursis, 50 000 euros d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement.
Madame Hardini,
relaxé grâce au bénéfice du doute.
Sébastien Hardini,
2 ans de prison, dont 1 avec sursis, 35 000 euros d'amende, interdiction définitive de gérer un bien d'hébergement.
SCI AMSA,
50 000 euros d'amende, diffusion de la condamnation, interdiction d'activité définitive.
Société Soirem,
80 000 euros d'amende, diffusion de la condamnation, interdiction d'activité définitive.
Pour toutes les personnes morales, condamnation de principe, montant de l'amende à préciser, paiement de tous les frais de justice.
Maintenant, on entre dans la dernière partie du procès. Merci d'avoir suivi jusque-là. Les avocats de la défense vont tenter de disculper leurs clients accusés. On va ôter tout suspense. Tous, sans exception, vont demander la relaxe de leurs clients. D'abord, l'avocate de la famille Bonetto et de Sylvie Collier, qui va plaider, comme beaucoup de ses collègues, que les propriétaires ont eu des actions positives, ont agi pour tenter de résoudre les désordres.
En gros, c'est la faute du syndic. Et quand ce n'est pas le syndic, c'est la faute de nos propriétaires. Tout le monde se renvoie la balle.
Plusieurs échanges montrent qu'un plombier est intervenu. Le nécessaire a été fait pour trouver les causes de ce problème de canalisation. Or, on sait maintenant que le problème trouvait son origine dans les parties communes.
Elle rappelle que Sylvie Collier est devenue propriétaire en 2016, 2 ans avant les effondrements. En clair, elle a été propriétaire de 0,006% du temps de vie de ces 2 immeubles vieux de 3 siècles et demi.
Puis l'avocate vient contredire les arguments du procureur.
L'instruction a été conduite sous votre ordre durant 6 longues années et aucun propriétaire n'a été renvoyé à l'issue. J'ai l'impression que le Mistral, a aujourd'hui tourné. C'est même une tempête.
Jingle.
Sixième et dernier épisode du procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne. Le procès.
On est presque au bout. On continue avec les avocats de la défense. D'ailleurs, l'avocat du cabinet Lyotard adopte la même stratégie que la semaine passée.
Monsieur le procureur, vous avez privé vos réquisitions de cohérence. Tantôt, Lyotard n'a pas bien informé de la situation, mais quand il s'agit d'accuser les propriétaires, là, finalement, Lyotard les avait bien informés.
Vous dites, l'effondrement était prévisible, et Lyotard le savait. Puis, vous dites, personne ne pouvait prévoir l'effondrement.
Les avocats du syndic Lyotard mettent en cause tour à tour les experts, Philippe Utti et Garta, les propriétaires, qu'ils n'ont pas pu obliger à voter les travaux, et les élus, pour la gestion des périls.
L'après-midi arrive le ténor du barreau. C'est Caldi, un bon collègue de M. Cachard.
Il rappelle que Xavier Cachard n'est en rien concerné par les petits griefs qu'on prête à son client.
Il n'est pas propriétaire, non, non, non. Il est actionnaire majoritaire de la SCI Soyerem qui, elle, est propriétaire de l'appartement.
Et il n'est pas avocat du syndic, mais avocat des propriétaires qui composent la copropriété.
Bref, pour l'avocat, Xavier Cachard n'est pas le personnage machiavélique qui manipule les experts à distance. Il conclut.
On n'apaise pas la colère des victimes en remplissant les bancs des prévenus.
Puis passe rapidement l'avocat de Jean-François Valentin, frustré que son client n'ait pas assisté aux audiences pour raison de santé. Il cherche à le disculper totalement.
Maître Pedignelli, avocat de la famille Ardili, commence sa plaidoirie en décrivant Noailles et la rue d'Aubagne, telle une carte postale d'influenceur.
La rue d'Aubagne, avec ses odeurs épicées, la quincaillerie L'Empereur, la pizzeria Sauveur.
Puis, changement de cap, il estime que la famille Saïd Hassani a choisi de vivre rue d'Aubagne et ne pouvait pas être considérée comme vulnérable.
Est-ce vraiment interdit de se poser la question ? À l'époque de l'entrée dans les lieux, Iman, le grand-fils, est français. Il travaille. Il n'a pas été forcé, que je sache. Il pouvait partir quand il voulait. La famille touche la CAF. Ouloumé perçoit des aides sociales. Elle a un titre de séjour.
Jingle !
Le dernier épisode du procès de la Chevalier. Sixième et dernier épisode du procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne.
Mardi 17 décembre,
les avocats de Richard Carta, maître Cyril Gosset et Cyril Charbonneau tentent de minimiser les négligences de son client qui a visité le 65 rue d'Aubagne en une seule petite heure.
Le plus important n'est pas la visite, mais le diagnostic rendu. Il n'y a aucune négligence de la part de M. Carta. Sans qu'il puisse aller au 63 et au 67, il ne peut pas comprendre le mouvement.
S'il était entré à chacun des étages, il n'aurait rien eu à voir, car les choses se passaient dans la cave du 63 et du 67. Qu'aurait-il vu dans ses appartements ? Rien. Si c'était un autre expert, cela n'aurait rien changé non plus.
Pour l'avocat, les alertes arrivent après la visite de Carta. Il en vient maintenant à la décision de décider de la réintégration des occupants.
Ce n'est pas lui, il n'a pas ce pouvoir. Il n'est pas possible de dire dans un jugement qu'il a autorisé la réintégration. Il n'a pas ce pouvoir, c'est à la mairie. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle d'audience.
Beaucoup d'immeubles sont infectés des mêmes pathologies. Mais heureusement qu'on ne les évacue pas tous. Décider de l'évacuation des gens, c'est les priver de leur vie en fait. De leur ordinateur, de leurs photos de famille, de leur slip, de tout, quoi.
Il tente aussi de charger Reynald Philippouti, le fameux expert absent du procès. Cyril Charbonneau se lance dans la lecture de plusieurs passages des rapports de Philippouti.
C'est la première occasion manquée de sauver des gens. Philippouti est le seul expert dans ce dossier. Richard Carta ne devait que juger de l'imminence du péril.
Il poursuit. Ce qu'on demande à M. Carta est d'être la pitié, non pas de constater, mais de deviner. M. Carta n'était pas capable de voir ce que vous demandez de voir. Vous allez relaxer M. Carta, parce qu'avec 2 ans fermes et si peu dans ce dossier, il n'y aura plus d'experts pour les immeubles menaçant d'être des ruines. Plus rien.
Maître Casalta, avocate, assure la défense de Christian Gilles, directeur de la société Marseille Habitat. Elle assure qu'aucune preuve n'existe contre son client.
On ne vous démontre pas la faute caractérisée et le lien causal. Vous ne pourrez pas le condamner, car c'est l'application de la loi.
Elsa Loiseau et Jean Goudot, défenseurs, eux, de Marseille Habitat, la société d'économie mixte dirigée justement par M. Gilles.
C'est un joli mot, ça, défendre. La salle d'audience, ici, c'est comme l'agora de la ville de Marseille.
Marseille Habitat est une personne morale. Le parcours juridique pour faire condamner une personne morale est bien plus compliqué que pour une personne physique. Ils affirment que le numéro 63 rue d'Aubagne était en bon état, malgré qu'un petit péril était avéré.
Quand je récupère cet immeuble, il est sain. Les poutres étaient vraiment dures, sauf deux dans une salle de bain.
Pour eux, la catastrophe n'est pas venue de l'immeuble 63.
Les plaidoiries durent environ entre 30 minutes et 2 heures. C'est souvent un grand spectacle. C'est
jingle.
Presque fini. Jingle.
Jingle, le dernier épisode du procès de l'effondrement de la rue Nouvelle. Le procès.
Dernier jour du procès.
Dernier épisode.
Dernier jour du procès.
Mercredi 18 décembre. Dernier jour des plaidoiries de la défense. Dernier jour du procès tout court. Ce matin, deux avocats défendent les intérêts de Julien Ruas. D'abord, Mathieu. Celui-ci construit sa plaidoirie en se mettant au centre de son allocution.
Je vais commencer par un aveu qui fera peut-être grief à la défense. Je ne suis pas marseillais.
Il s'acharne à disculper son client.
On peut contester le travail, mais nul n'est responsable que de son propre fait.
Il passe sa matinée à présenter des échanges de mails pour justifier cette phrase de Julien Ruas himself.
J'ai beau mesurer 1m90 et avoir mes épaules larges, je ne peux pas porter à moi tout seul la responsabilité de toute la ville de Marseille quand même.
Il conclut avec...
Ce procès de la rue d'Aubagne ne sera pas un jugement de la rue.
Le second avocat est bien plus lyrique. Il n'hésite pas à convoquer à l'envi les Mérovingiens, le diable, Pierre Bérégovois, le pape en Corse. Il affirme
« Je plaide pour un homme bien seul. »
Lâché par ses pairs, avant de lancer, sous les réactions indignées du public,
« On reproche à Julien Ruas de ne pas avoir vidé les caisses de la ville, c'est ça ?»
La stratégie de défense plaidée par l'avocat est claire. Les fautes administratives qui justifient les accusations à son encontre sont le fait de Jean-Claude Gaudin et des services de la ville.
Pour lui, Julien Ruas, poids plume politique, est un lampiste, un bouc émissaire. L'après-midi, comme dans tous les procès, les dernières paroles sont données aux accusés. Marseille Habitat, tout comme ses dirigeants et ex-dirigeants, veulent croire que ce procès n'aura pas servi à rien et qu'ils respectent le deuil des familles. Les propriétaires, eux, n'ont rien de plus à ajouter.
Après les remerciements pour la technique, le personnel, les interprètes du président, le procès s'achève après 6 semaines. Mais cette histoire n'est pas encore finie. Il faut maintenant attendre que le tribunal délibère. Verdict le 7 juillet. Si les accusés font appel de leur jugement, il y aura alors un second procès. Restons patients et mobilisés.
Nous sommes à la fin de l'exercice. Thank you. m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, les crieuses publiques, avons pu suivre ce procès de près pour vous le restituer ici, dans les rues et sur les places de Marseille, pour qu'un maximum de monde puisse être informé et tenu au courant.
Merci aux journalistes qui ont suivi ce procès, notamment Mars Actu, qui a suivi chaque journée en direct. Merci aux avocats et aux juges qui ont permis la dignité des débats. Merci aux associations et collectifs qui ont permis une mobilisation des habitants et des habitantes, notamment le collectif du 5 novembre et ses nombreux soutiens. Merci. Merci aux greffières et aux greffiers populaires qui ont souvent chaque jour le procès dans la salle d'audience ont pu écrire une mémoire sensible de ce qui se trame dans le tribunal. Merci.
Rendez-vous bientôt pour le verdict. Merci pour vos oreilles. Nous crions encore demain à la plaine à 17h et samedi à 11h, place Cadena. Merci.
Vous venez d'écouter une criée publique racontant le procès des effondrements de la rue d'Aubagne.